Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, les confidences d'un des derniers géants d'Hollywood, Clint Eastwood, va nous présenter La Mule, son nouveau film en tant que réalisateur et qu'acteur. C'est une des sorties du jour en salle. C'est un coup de cœur de Stéphane Boutsock. Nous vous ferons d'ailleurs un très beau cadeau, 32-10, une anthologie d'Eastwood avec ses 50 films. Mes enfants, vous êtes gâtés. L'actu musicale de la semaine marquée par le retour de la star canadienne Bryan Adams. Nous ferons connaissance aussi avec la chanteuse de 23 ans qui cartonne Aya Nakamura. Elle s'est confiée à Steven Bellery. Et puis à la télévision ce soir, démarrage sur France 2 à 21h de la série Philharmonia. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Boss.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Le cinéma du mercredi, donc, pour commencer. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Avant d'écouter dans un instant les confidences exclusives, je le rappelle, de Clint Eastwood, on jette un œil, bien entendu, sur les résultats de notre box-office.
Oui, avec les chiffres de nos amis du site cbo.fr. C'est le film Glass de M. Night Shyamalan qui s'installe en tête cette semaine. Près de 550 000 entrées. À noter le joli démarrage de l'incroyable histoire du facteur cheval, autour des 250 000. Pour les continuations, Creed 2 atteint le 1 250 000 en 15 jours. Aquaman a passé les 3 millions. Et puis, Sauver ou périr avec Pierre Niney est au-delà maintenant du million de spectateurs. Très beau succès, qui est aussi une manière de rendre hommage au travail et au sacrifice de nos sapeurs-pompiers.
On en vient, Stéphane, à l'événement de ce 23 janvier au cinéma, la sortie avec RTL du nouveau film de Clint Eastwood, La Mule, un film qui marque aussi le retour du réalisateur devant une caméra, ouais. Puisqu'il joue le rôle principal. Clint Eastwood nous a réservé sa seule interview radio en France, et vous voulez d'abord nous dire dans quelles conditions.
Oui, par souci d'honnêteté, une rencontre avec Eastwood était envisagée le week-end dernier à Los Angeles. Au dernier moment, ça n'a pas pu se faire. En revanche, il a tenu à répondre aux questions de RTL, questions que je lui ai fait parvenir par mail et dont il a enregistré les réponses que vous allez entendre.
Alors, dites-nous d'abord de quoi parle ce nouveau film, La Mule.
C'est une histoire vraie, celle de Earl Stone, octogénaire, horticulteur, ruiné par la crise et Internet. Il vit seul, coupé de sa famille, avec laquelle il est fâché après une vie passée à sacrifier les siens pour réussir. Earl ressemble à un grand-père au-dessus de tout soupçon et c'est pour ça qu'un cartel mexicain va le repérer et lui proposer un boulot très lucratif, transporter de la drogue par la route. Earl devient donc une mule, extrêmement efficace, grassement payée, mais un policier va se lancer sur sa piste. Le film est une comédie dramatique dans laquelle Eastwood dresse le portrait amer d'une société qui oublie les plus âgés, qui hisse à tout propos le drapeau du politiquement correct et retrouve en cela, rappelez-vous, les accents de Gran Torino en 2008. Le réalisateur-acteur y incarnait déjà un papy réac devenant, malgré lui, une sorte de héros.
En un sens, oui, ils sont cousins, puisque j'estime qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. C'est très bénéfique de toujours garder l'esprit ouvert, de continuer à s'impliquer, car sinon, vous dépérissez plus vite et oubliez ce que vous ressentiez quand vous aviez 20 ou 30 ans, cette idée de faire face à ce qui vous arrive. Je pense que dans Gran Torino, le personnage était plus meurtri que celui de la mule, où on a affaire à un homme qui, certes, a des problèmes, mais les affronte comme il peut. En fait, il apprend du monde actuel sans vraiment le vouloir. Lui, ce qu'il veut, c'est avancer. Il devient riche illégalement et tente de justifier cela en donnant de l'argent à diverses causes et personnes.
Alors, il y a aussi un parallèle assez troublant dans La Mule. Clint Eastwood y campe, je vous l'ai dit, un père indigne qui a négligé les siens toute sa vie, notamment sa fille. Et dans le film, c'est sa vraie fille, Allison, qui joue ce rôle. La star hollywoodienne, mariée et divorcée deux fois, père de 8 enfants nés de 6 femmes différentes, fait-il à cette occasion son mea culpa? Demande-t-il pardon à sa propre famille? Réponse pudique, mais assez claire, ma foi, entre les lignes.
Je dirais que ce film est nourri par les regrets et mon personnage se sent coupable de ne pas avoir été là pour sa famille quand elle a eu le plus besoin de lui. En revanche, je ne sais pas d'où ça vient. Ça parle de bonnes ou de mauvaises choses qui marquent une vie, qu'elles soient légales ou pas. Et ça dit surtout qu'il faut discerner le moment pour saisir ou pas les opportunités quand elles se présentent. Ça montre aussi qu'on apprend tout le temps. Pour moi, la vie est un immense programme scolaire, très sérieux, avec lequel on n'en a jamais fini. Au contraire, il faut toujours continuer.
Just go with it.
Alors, il faut toujours continuer, nous dit Clint Eastwood sur RTL. À 88 ans, c'est le doyen des cinéastes américains en activité.
Ouais, et il tourne encore à un rythme soutenu. La Mule est son 38e film de réalisateur. Il y partage l'affiche avec Bradley Cooper dans le rôle du flic, lancé à ses trousses. C'est la deuxième fois qu'Eastwood travaille avec la star de Very Bad Trip, passé de l'autre côté de la caméra avec succès l'an dernier avec A Star Is Born. Certains y voient une sorte de filiation. Et lui ?
Oui, je pense. Bradley est pour moi bien plus intéressé par le fait de mettre en scène plutôt que de jouer dans un film. Je suis certain qu'il sera très bon, il a l'œil. Quand nous avons travaillé ensemble sur American Sniper, j'ai compris que la réalisation était vraiment son truc. Je savais qu'il franchirait le pas, ce qu'il vient de faire, et que ce serait très bien.
Clint Eastwood conserve chez nous une cote incroyable, passé de l'affreux réac de droite dans les années 70 au monument vivant inattaquable ensuite. D'ailleurs, c'est parfois les mêmes qui ont changé un petit peu d'avis. Il est en tout cas conscient de son aura dans notre pays et le lui rend bien.
J'aime la France, j'aime son peuple. Je me souviens quand il y a eu le drame, la fusillade dans cette salle de concert, j'ai décidé de porter un badge du drapeau français. Je ne pouvais pas les aider physiquement, mais je voulais le faire à ma façon. Même aujourd'hui, je sais que vous connaissez des moments difficiles. Peut-être pas pire que les nôtres, mais de toute façon, le monde est devenu dingue ces derniers temps.
Everybody, the whole world is kind of crazy right at the moment.
Clint Eastwood a retrouvé donc au cinéma partout en France ce mercredi avec RTL dans la Mule.
Et pour cette occasion, nous vous offrons ce matin un cadeau exceptionnel, des places de cinéma bien entendu, hein, pour aller voir la Mule, mais aussi un magnifique coffret, ouais. L'anthologie Clint Eastwood regroupant 50 de ses films, parmi lesquels Le Bon, la Brute et le Truand, L'Inspecteur Harry, Impitoyable, Million Dollar Baby, Grand Torino ou American Sniper. Pour gagner ce coffret édité par Warner et les places, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
La Mule est-il le 28e ou le 38e film de réalisateur signé Clint Eastwood ?
Réponse au 32-10. On termine Stéphane avec un mot des autres sorties du jour.
Green Book, sur les routes du Sud de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, l'histoire vraie d'un videur italo-américain engagé pour servir de chauffeur à un pianiste noir dans les états racistes du sud des États-Unis. On est en 62. Voyage initiatique pour les deux hommes. Le Green Book, le guide vert, était celui édité jadis pour lister les établissements dans lesquels les Noirs avaient le droit de dormir. Comment deux hommes si différents ont-ils réussi à s'apprendre, s'apprivoiser, s'apprécier ? Viggo Mortensen.
On peut lutter contre l'ignorance avec l'expérience. Passer du temps d'écouter aux autres. Mais je pense que ce n'est pas du tout un film idéologique. Ce n'est pas fait pour une population minoritaire. C'est un film pour tout le monde. Il y aura des familles à Texas ou dans des villes françaises qui vont voir ce film parce que c'est un film drôle, un road trip bien fait. Ils vont pas voir le film parce qu'on lui a dit « Bon, c'est un nouveau film sur le racisme ». Le message, s'il y a un message le plus simple de Green Book, c'est que si un homme comme Don Shirley et un homme comme Tony Vallelonga peuvent se respecter, peuvent se comprendre, peuvent devenir des amis, c'est possible pour tout le monde.
Green Book, à ne pas rater au cinéma cette semaine. Le film est nommé 5 fois aux Oscars, dont meilleur acteur pour Viggo Mortensen. Je vous rappelle aussi la sortie de Yao, joli conte africain avec Omar Sy, tourné au Sénégal. Et puis une nouvelle chronique centrée sur l'univers de la santé, ça s'appelle L'Ordre des médecins de David Roux, dans lequel Jérémy Régnier, impeccable, joue le rôle d'un pneumologue hospitalier, essayant de relativiser la mort de ses patients qu'il côtoie au quotidien, jusqu'au jour où sa maman, formidable Marthe Keller, est traitée pour un cancer en stade terminal. C'est rude attention, mais c'est vrai et surtout c'est réussi.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Dans un instant, l'actualité musicale avec Steven Bellery.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Toute l'actualité musicale à présent avec Steven Bellery. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
On commence avec le retour de Bryan Adams.
4 ans après Get Up, le rocker à la voix si reconnaissable sera de retour le 1er mars avec un nouvel album très électrique que j'ai eu la chance d'écouter. Un disque intitulé Shine Light, tout comme le premier single qui vient d'être dévoilé. Une chanson que Bryan Adams a coécrit avec la pop star Ed Sheeran. J'ai rencontré Bryan Adams de passage à Paris la semaine dernière. Le Canadien introduit pour RTL ce nouveau morceau.
J'avais une idée pour une chanson, j'étais à New York. Je travaillais sur une comédie musicale, Pretty Woman, mais le titre ne collait pas au spectacle. J'avais rencontré Ed en Irlande, on était restés en contact et je me suis dit, qu'est-ce que ferait Ed avec cette idée ? Je lui ai envoyé le refrain, il m'a dit qu'il aimait beaucoup, qu'il allait essayer de le retravailler. Et même pas une journée après, il m'avait envoyé quelque chose. Cela a été très facile et en plus c'est un mec très sympa. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où j'écrivais ce texte, mon père était en train de mourir. Quand je pense à cette chanson, je ne peux m'empêcher de la relier à mon père, à cette lumière qu'il dégageait. Même si cette chanson ne parle pas de cela, elle peut parler de n'importe qui en difficulté, qui se remet sur pied et montre au monde qui il est.
Carré et très efficace, Shine Light, premier extrait de l'album éponyme de Bryan Adams, sorti prévu le 1er mars. Le chanteur aux 75 millions d'albums vendus vient de démarrer une tournée mondiale qui devrait s'arrêter par la France, mais on n'a pas encore de date.
Dans l'actualité également, le carton d'Aya Nakamura, la chanteuse de 23 ans, est l'une des nouvelles sensations au rayon disque, Steven.
Oui, son deuxième album paru à l'automne est l'une des surprises de la saison. Il s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires, streaming inclus. Aya Nakamura est nommée à deux reprises aux prochaines Victoires de la Musique. Son succès est surtout quantifiable sur Internet, terrain de jeu de la nouvelle génération. Vous avez probablement dansé cet été sur son tube Dja Dja, qui cumule près de 300 millions de vues sur YouTube. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'es ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'es ça. Alors, on va décrypter. Je suis pas ta catin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Un dja dja, ça serait un mec pas cool, menteur. Katchana serait une position sexuelle et tu dead ça signifie que tu l'as trop bien fait. Bref, Aya Nakamura se distingue par une langue atypique, mélange d'argot de banlieue, de mots vulgaires et d'une touche d'intimité. J'ai rencontré la jeune chanteuse qui décrypte sa manière d'écrire.
Pour moi, c'est mon langage à moi. C'est super naturel et c'est de l'argot, ça vient surtout de mon quartier. Bah, je suis pas ton plan B, t'as maté le fessier. Genre, c'est une phrase que j'aurais pu dire en parlant, tu vois. Je me dis que cette manière d'écrire, elle est plus simple et elle me correspond plus. Quand j'écris, c'est comme si je me confiais à une amie. Je pense que c'est comme une séance chez le psy, parce que je suis une personne qui a du mal à s'exprimer en général, etc. Je suis un peu timide. Mais quand il s'agit de chanter, c'est plus pareil. C'est plus simple. Bah, je raconte ma vie, quoi. Je viens à peine d'avoir 23 ans. Ma vie, c'est les copines, la musique, certains mecs. Enfin, ça commence comme ça, les histoires. Enfin, je veux dire, on n'a pas 30 ans, on n'est pas marié, on n'a pas de... on n'a pas la vie rangée, boulot, dodo, etc. Enfin, c'est pas la routine, quoi. Après, je raconte la vie de beaucoup de filles, tout simplement.
Comme Copine, autre tube d'Aya Nakamura, plus de 125 millions de vues en 4 mois à peine pour ce clip-là.
La musique d'Aya Nakamura allie habilement plusieurs influences. Hein.
Oui, le flow du rap, le groove du R&B, la production synthétique de la musique urbaine et la chaleur des sonorités africaines. Et pour cause, Aya Nakamura est née au Mali en 1995.
Je suis née à Bamako, mais j'ai grandi à Paris. Mais je pense que oui, aujourd'hui, si j'avais pas été malienne, j'aurais pas eu cette voix. Et je pense que j'ai aussi cette touche afro qui fait que j'ai ce style de musique en plus du R&B. Moi, j'ai pas grandi avec l'écriture tout de suite. Au début, j'écoutais beaucoup ma mère chanter parce qu'elle était griotte. Du coup, on entendait beaucoup les chants comme ça. Et au fur et à mesure du temps, ces mélodies-là sont rentrées dans ma tête.
J'apprends que les griottes existent, dites donc. Je pensais que ça ne concernait que les hommes.
Et okay. Non. Ces tubes dansants et addictifs plaisent aux gamins comme aux bobos. Les Bleus chantaient Dja pendant toute leur Coupe du Monde. Derrière la légèreté, ces paroles évoquent aussi en creux les questions de l'émancipation féminine. D'ailleurs, après Bibi dans les années 80, Aya Nakamura est l'une des premières femmes françaises noires à devenir une star de la chanson dans notre pays.
C'est une fierté, mais c'est aussi grave, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de femmes noires dans ce milieu-là, en 2019 surtout, c'est spécial. Moi, au début, j'ai pas été complexée, mais c'est comme si on voulait te complexer. On voulait te dire que ta peau n'est pas jolie, que si tu avais été plus claire, t'aurais été mieux, mais je me dis, non. Quand t'entends plein de trucs comme ça, c'est sûr que ça te met un frein, mais faut pas rester focus dessus, faut avancer.
Est-ce que vous avez conscience d'être aujourd'hui un modèle ?
Non, du tout. Je me dis que les gens me suivent que pour ma musique, ça peut être que ça. S'il y a beaucoup de gens qui me disent merci d'être toi-même, merci d'assumer ce que tu dis, ce que tu fais.
Est-ce que vous aimeriez en être un ou pas ?
Ah, bien sûr, mais après, je sais pas si j'ai les épaules assez solides pour assumer ce statut.
La Dot, l'une des chansons du nouvel album d'Aya Nakamura. Elle écrit elle-même ses chansons, je le précise. Son album Nakamura vient de sortir. C'est un véritable phénomène. Je pense qu'elle va exploser cette année. Elle démarrera le 30 mars, la première tournée de sa vie. Elle chantera au Printemps de Bourges, dans les plus gros festivals cet été et dans les Zéniths à l'automne prochain.
Bien avec elle. Hein. C'était Aya Nakamura. Merci beaucoup pour ce journal musical, Stephen Bellery. Dans un instant, nous allons parler télévision avec Isabelle Morini-Bosse, qu'il existe donc des griottes. Ça, c'est pas bien.
Je ne sais pas non plus.
Dans les galettes des rois pistaches aussi.
Ouais.
Bonne matinée en compagnie d'RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
Ce jingle nous annonce les audiences de la veille avec Médiamétrie.
Eh bien que t'es soit, vous savez, avec votre copain et sans surprise en tête, 4 800 000 téléspectateurs et 20% du public sur la une. Au-delà des apparences, démarre bien sur la 3. 3 500 000 curieux étaient devant, 15% des téléspectateurs sur la 3. Et tout le monde joue au docteur, et bien fait son meilleur score depuis les 14 émissions de cette série, puisque 3 100 000 personnes étaient sur la 2, 15% du public côté TNT. C'est le jeu Last Moon qui est en tête, 650 000 téléspectateurs sur C8.
Oh, juste précise quand même le bon score de Calogero. CMC.
Oui.
C'est bien.
Oui.
Si vous nous le dites.
Oui,
571 000.
C'était bien. En direct sur RTL2 hein, aussi.
Exactement, chez nos copains d'RTL.
Alors ce soir, vous nous signalez sur TF1 le remplacement de New York Unité Spéciale par Esprit Criminel. Oula, mais votre coup de cœur est pour une série française en face sur la 2.
Oui, elle s'appelle Philharmonia et comme son nom le suggère déjà, elle se déroule dans les milieux de la musique classique. Le résumé est simple, une femme chef d'orchestre, Hélène Barizet, prend la tête d'un prestigieux orchestre philharmonique. Elle a une saison pour faire ses preuves et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas la bienvenue.
Oh,
tous pensent que le poste n'est pas dans ses cordes, forcément. Cette femme brillante mais brisée s'en fiche et dès son arrivée le fait sentir au directeur, brillamment joué par Laurent Bateau.
Enfin vous voilà.
Bonjour monsieur Saint-Just.
Certains commençaient à penser que vous ne viendriez pas.
Je suis sûr que vous les avez rassurés.
Mais évidemment. Vous n'êtes plus violent solo, c'est fini les caprices. Vous voilà chef. Combien de personnes aviez-vous en charge à New York ?
Environ une centaine, mais la moitié seulement étaient musiciens.
Et les autres ?
Leurs avocats.
Mesdames, messieurs, la mort soudaine de notre maestro nous a tous laissés orphelins. Le ministère a dû penser que nous avions besoin d'une maman. Je vous demande donc d'accueillir notre nouveau directeur musical et chef d'orchestre, Madame Barizet.
Bonjour.
Merci pour cet accueil. Je suis un défi, un pari, une anomalie. Pour certains d'entre vous, peut-être même une angoisse, voire une menace. C'est pas grave, nous allons faire connaissance. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la musique. Beethoven, premier mouvement.
Excusez-moi, on voudrait jouer une autre musique, une sorte de musique de bienvenue. Mesdames, messieurs.
Les joue en direct, hein, d'ailleurs.
J'adore.
Voilà, c'est bien sûr le générique de Mission Impossible de Lalo Schifrin. Le message de l'orchestre est clair, la suite spectaculaire. Il est addictif, ce thriller psychologique tourné à la Philharmonie de Paris avec la collaboration durant 62 jours, c'est énorme en télé, hein, de l'Orchestre National d'Île-de-France avec des seconds rôles épatants et des acteurs principaux musiciens, notamment les violonistes Marie-Sophie Ferdan, c'est Hélène, et Lina El Arabi, sa protégée. On note dans la distribution Thomas Sisley, François-Vincent Telly, magnifique, Jacques Weber, Véronique Jeannot, Tom Novembre. Là, elle va vraiment le mener à la baguette et le briser. Comme en plus les dialogues sont étincelants, laissez-vous porter de musique, bien
moi,
sûr.
Moi, j'ai vu la bande-annonce, en effet, ça donne très envie d'y intéresser. Alors, votre autre coup de cœur est pour le chanteur Gilbert Montagnier, candidat du meilleur pâtissier célébrité sur M6. Vous aviez commencé à nous en parler.
Oui, et c'est savoureux. Mais alors, lui ai-je demandé comment une vedette malvoyante, aussi habituée aux caméras et à la lumière soit-elle, peut-elle accepter de participer à un concours culinaire, où franchement, culinaire aussi, où franchement, ça court de partout.
J'ai accepté parce que je trouvais que c'était un défi vraiment intéressant pour moi, dans le sens où j'avais vraiment jamais fait de pâtisserie. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais pour le savoir, il fallait bien que j'essaie. Deuxièmement, on n'a pas eu beaucoup de préparation. J'ai rencontré mon chef fantastique, Mélig Marjolin, qui m'a coaché une journée avant. Là, j'ai appréhendé l'espace de travail, parce que pour moi, c'était important quand même de savoir ce qu'il y avait autour et pour essayer d'être le plus rapide possible dans l'exécution du travail. Mais entre ça et puis être sur le terrain à 3-4, on y va, c'est autre chose. Et vous verrez, ce mercredi, ça sera encore plus difficile. Mais moi, j'ai une question pour vous, Isabelle. Est-ce que vous connaissez le prarion? C'est le gâteau que m'a demandé Mercotte.
C'est une perverse, Mercotte.
On s'est bien entendu. Mais le prarion, c'est un gâteau avec de la framboise. C'est un gâteau de la Savoie. Je sais, vous connaissez bien cette région-là. Eh bien, on l'a fait, le prarion. Hein, c'était quelque chose.
Oui, parions sur le prarion. Mais alors, hors donc, sur le plan technique.
La production était intelligente parce qu'ils ont mis des étiquettes en braille sur tous les contenants. Donc je savais évidemment comme ça quel ingrédient il y avait. Et puis j'avais une balance parlante. Et puis j'avais aussi des stickers, les petits autocollants là, sur la plaque, puisque les plaques maintenant elles sont tactiles. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est tactile, mais nous on touche rien puisqu'il n'y a pas de bouton. Donc on serait à la rue hein, là. C'est 6MD, on met des stickers pour la force de la cuisson. Mais maintenant avec tous les appareils connectés, on va être à même de pouvoir savoir exactement tout ce qui se passe. Ça, c'est merveilleux.
Oui, et honnêtement, il porte l'émission, il est formidable. Donc ce soir, 21h, M6, c'est un très très bon moment, avec toujours les couleurs pastels qui sont bienveillantes. Ouais. On se laisse porter, ça prépare à la nuit, il n'y a pas de souci. Et donc, il y a Gilbert Montagnier.
Alors, il a réussi son gâteau?
Oui, mais justement, vous verrez, il y a le problème esthétique, parce qu'il y a le fer et que ce soit joli. Vous savez à quel point la cuisine est chichiteuse, maintenant, il faut en plus que ce soit beau.
Merci beaucoup Isabelle. Dans un instant, nous accueillons Julien Courbet.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Don't let the old man in. I won't live it so long. Can't leave it up to you.
C'est la chanson du film parce que dans le film La Mule, Earl Jones, ce papy donc qui sert de convoyeur, est tout le temps en voiture et il écoute tout le temps la radio, donc on retrouve plein de chansons et c'est assez merveilleux. C'est Toby Keith que l'on entend.
Ce matin, j'ai écouté d'autres extraits que j'ai adorés, notamment celui-là, avec Raphaël Nivoy.
Alors dites donc, on a quand même un cadeau absolument somptueux à distribuer, c'est-à-dire les 50 films de Clint Eastwood. La question qui a été posée, c'est combien de films a-t-il réalisé? Sont-ils 28 ou 38?
Et la Mule est le 38e.
38e film réalisé. Vous rendez compte la carrière de cet homme qui par ailleurs a été comédien. Demain, on va commencer nos festivités entourant le 500e anniversaire de Léonard de Vinci.
Ah ben j'amènerai un gâteau alors.
Je rêve aussi. Mais...
C'est
pas vrai.
Faire chier en bougie.
Remettez-moi ma petite chanson que j'aime bien là. Bon, c'est trop tard. Allez. En plus, on est à chaque fois sur l'intro musicale, c'est les gars que j'ai envie d'entendre chanter. C'est pas grave. On va retrouver Julien Courbet avec beaucoup de plaisir. Et alors, surtout, Julien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Lucas Pouille, cette fois-ci, Pouille, c'est quand même qualifié pour sa première demi-finale dans un grand chelem. Hein.
J'ai vu un peu à la télé, parce que j'ai pas les moyens de me payer une place, parce que ça vaut la co-dépouille d'aller à.
Oh, c'est bien ça.
Pourquoi ? Mais aller en Australie, ça coûte très cher. Mais je suis très content pour lui.
La mon Dieu.
Vous qui êtes plutôt Julien Papouille.
Pardon, exactement.
Ah oula, on rivalise. Notre
vous saviez que, dites donc, le grand scoop de la journée, c'est que Bernard Sabat a ouvert un bar, dites donc. Vous
c'est
le saviez
pas vrai.
Ah, oui. Ah bah non, non. Alors, j'y étais hier parce qu'il y avait l'inauguration. Alors, il a, sur la vitrine, il a mis un panneau avec Coca-Cola 5 euros. Donc, je suis rentré, j'en ai commandé un. Et là, il me dit, ça fait 10 euros. Je lui dis, enfin, Bernard, il y a marqué sur la vitrine 5 euros. Il me dit, oui, 5 euros, c'est pour le Coca, plus 5 euros pour le service. Donc, je lui donne 10 euros. Attendez, je lui donne les 10 euros. Il revient 5 minutes après. Et il me donne 5 euros. Je lui dis, mais du coup, je croyais que c'était 10 euros. Il me dit, oui, mais on n'a pas de coca. Alors, il est quand même gonflé, quand même.
Donc, et c'est où ce bar ? Parce que si j'ai des ennemis, je veux leur recommander.
Parce que bon, merci, Yves. Allez, je vous souhaite une bonne
c'est
journée.
C'est un sabar-tabac, j'espère.
Exactement, oui.
Allez, bonne émission, moi,
c'est parti.
Vous écoutez RTL.